Le journal Sébastien Legenis. Bonjour Sébastien.
Bonjour Ali, bonjour à tous. Au sommaire ce matin, l'année 2019, année record pour les crédits immobiliers. 250 milliards d'euros accordés aux particuliers, au point que les autorités financières commencent à s'inquiéter de l'endettement des foyers et de la rentabilité des banques. Précision du service économique à suivre. À suivre aussi dans ce journal, 22e jour de blocage dans les transports. Un mouvement qui devrait dépasser celui de 1995. Les caisses de grève se multiplie sur Internet. Quand l'État veut empêcher un élu local de s'en prendre à Total, ça se passe dans la Meuse, explication à venir. On parlera aussi du président brésilien qui gracie un nombre des policiers condamnés pour meurtre, de la réforme des études de médecine en 2020 qui inquiète les doyens d'université et du projet de l'ancien perchiste Romain Ménil qui s'apprête à faire un tour du monde de l'olympisme.
7h50, notre invité sera le médecin humanitaire Raphaël Pitti. Il s'est rendu plus d'une vingtaine de fois en Syrie. Nous ferons le point avec lui sur l'enfer que vivent des milliers de civils de la région d'Idlib.
France Inter.
Et l'on commence le journal, Sébastien, avec ce record absolu pour les crédits immobiliers en France.
Jamais les Français n'auront autant investi dans la pierre. L'année 2019 est l'année de tous les records. Les taux des crédits ont atteint des niveaux jamais vus, 1,12% seulement en moyenne le mois dernier. Résultat, les banques signent des prêts à tour de bras, au risque parfois pour les particuliers d'atteindre un endettement inquiétant, Laurent Kramer.
Après 3 années consécutives de très fortes demandes, le volume de crédit immobilier accordé aux Français a pourtant franchi un nouveau cap en 2019 avec ses 250 milliards d'euros de nouveaux crédits immobiliers distribués en une seule année, explique Sandrine Alonier, porte-parole de Vous Financer.
Pour la première fois, on va dépasser les 1 million de transactions immobilières dans l'ancien. Donc forcément, ça a boosté la demande de crédit. Et c'est comme ça qu'on arrive à ces 250 milliards d'euros de production de crédit. Là également aussi, c'est un record. Donc les gens ont emprunté plus, mais également des montants plus importants et sur des durées plus longues. Aujourd'hui, il y a 20% des transactions immobilières qui sont faites pour de l'investissement locatif. Avec toute la problématique des retraites qu'on connaît actuellement, ça devrait également renforcer l'envie d'investir. Et on sait que les taux de crédit devraient rester bas encore en 2020.
Les autorités financières ont néanmoins alerté les banques françaises de rester vigilantes sur les conditions d'octroi de ces crédits immobiliers, s'inquiétant de niveaux d'endettement immobilier qui dépasseraient les 33% habituels des revenus des ménages pour 28% des dossiers. Les banques, à l'inverse, répondent qu'elles ne gagnent plus d'argent à distribuer des crédits à des taux aussi bas.
Laurent Kramer a noté aussi cette forte tendance à la renégociation des crédits. Les stocks de crédits renégociés en 2019 ont dépassé les 50 milliards d'euros à terme, un risque pour la rentabilité du système bancaire selon un rapport de la Banque de France. C'est le début aujourd'hui de la 4e semaine de conflit autour de la réforme des retraites, un conflit désormais aussi long que celui de 1995, 22 jours sans discontinuer, et les grèves vont se poursuivre pendant des semaines s'il le faut selon la CGT Cheminot. Alors pour pouvoir tenir, les caisses de grève se multiplient sur Internet. Celle qui bat tous les records, c'est celle lancée par la CGT Infocom. À ce jour, 1 200 000 euros ont été récoltés, Cyril Ardo.
Près de 20 000 personnes ont donné jusque-là pour un montant moyen d'environ 70 euros. Romain Altman est le secrétaire général d'Infocom CGT.
Le plus petit don qu'on ait, c'est 1 euro. Et pour l'instant, le plus gros don qu'on ait eu, c'est 2 250 euros.
Les donateurs ont forcément des profils assez variés, même si Romain Altman a pu constater une tendance.
Beaucoup de jeunes ou de femmes en situation précaire qui n'ont pas forcément la possibilité de se mettre en grève. C'est aussi beaucoup de retraités qui souhaitent encourager les jeunes générations à se battre pour défendre notre modèle social français.
Cette cagnotte est ensuite reversée aux grévistes. Un don de 250 000 euros a par exemple été fait pour les salariés de la SNCF. Ceux en cartel à la CGT évidemment, mais pas seulement. L'idée est d'encourager le maximum de monde à prendre part au mouvement.
Dans les entreprises où il y a un syndicat ou des syndicats dans la lutte, ils peuvent déposer une demande au nom des salariés. Et à ce moment-là, on calcule le nombre de jours de grève, on évalue un don. Plein d'autres paramètres rentrent en ligne de compte. On regarde aussi les autres dons que les salariés ont pu avoir, si on considère que la nôtre n'est pas exclusive.
La plupart des syndicats et fédérations ont lancé des cagnottes. Celle de Sudrail a par exemple réuni 45 000 euros. Mais aucune ne peut être comparée au système mis en place à la CFDT qui a accumulé ces dernières années plus de 100 millions d'euros grâce aux cotisations et versera environ 7 euros de l'euro gravissime.
Cyril Ardo, côté trafic, toujours d'importantes perturbations, mais une légère amélioration. d'amélioration, un TGV sur deux en circulation, un Transilien sur 5, 4 TER sur 10, un Intercité sur 4. À Paris, 5 lignes de métro totalement fermées sur 16. Une nouvelle journée d'action est prévue samedi. En revanche, les syndicats d'hôtesses et de stewards, qui avaient déposé un préavis de grève pour le 3 janvier prochain, ont suspendu leur préavis après des discussions avec l'exécutif qui leur promet un départ à la retraite dès 60 ans. Ségolène Royal ira bien devant l'Assemblée nationale pour s'expliquer sur ses activités d'ambassadrice des pôles. L'ancienne candidate à la présidentielle a été convoquée par des deux députés qui s'interrogent notamment sur ses absences au sein du Conseil de l'Arctique. Ségolène Royal qui a réagi hier auprès de nos confrères de France Télévisions. « Ils ne savent plus quoi inventer pour me faire taire », dit-elle, parce que toute parole de vérité qui dénonce les graves désordres sociaux dont la France souffre les dérange. » Fin de citation. On en vient à cette polémique entre Total et un petit village de la Meuse. Champneville, 120 habitants près de Verdun, a décidé de s'attaquer aux géants pétroliers. Une action juridique collective avec une quinzaine d'autres communes qui accusent Total d'inaction climatique. L'entreprise ne ferait pas assez pour lutter contre les émissions de CO2. Sauf que l'État vient de s'opposer au conseil municipal de Champneville. La préfecture de la Meuse, en l'occurrence, y voit une démarche purement militante. Le maire de Champneville, lui, défend cet acte citoyen. Il s'appelle Daniel Lefort.
On pense que Total impacte le dérèglement climatique à son niveau de manière importante et que ça a des répercussions indirectes sur le quotidien des habitants de notre village. Bien sûr, il y a les crues de la Meuse, bien sûr, il y a les coulées de boue qui nous font un peu peur. Surtout aussi les agriculteurs du village qui sont préoccupés par la canicule. Le sens de notre action, oui, c'est de demander à Total de respecter son devoir de vigilance. Je pense que l'État devait faire son devoir en surveillant ces groupes-là. Ça, je pense que l'État le fait pas. Si elle ne le fait pas, elle laisse le champ libre à des communes comme nous pour le faire à sa place. Alors c'est un peu choquant qu'elle nous interdise de le faire.
Daniel Lefort au téléphone avec Sébastien Sabiron.
7h37, direction maintenant le Brésil où le président Jair Bolsonaro a pris une mesure très polémique.
Celle de réserver la grâce présidentielle de Noël aux forces de l'ordre condamnées pour des crimes lors d'opérations. La Cour suprême brésilienne actionnée par des ONG ne peut rien faire. La grâce présidentielle dans ce pays étant une attribution exclusive des présidents. À Rio, la correspondance d'Anne Vigna.
Pour sa première grâce présidentielle, Jair Bolsonaro a bien favorisé ceux qu'il a toujours défendus en 30 ans de vie politique, les forces de l'ordre. C'est donc les policiers et militaires qui bénéficient cette année de la grâce présidentielle. Le décret au journal officiel ne permet pas de connaître leur nombre, mais seront libérés ceux qui ont été condamnés pour des homicides involontaires commis en opération ou en situation de risque. La mesure a été immédiatement critiquée par les organisations de défense des droits de l'homme au vu de l'action des forces de l'ordre au Brésil. En 2018, les policiers et militaires ont tué 6160 personnes lors d'opérations dont près de 95% étaient des jeunes noirs. Très rarement, les forces de l'ordre sont condamnées pour ces faits, automatiquement considérés comme de la légitime défense. Quand ils le sont, la justice a réussi à prouver qu'il s'agissait d'une exécution sommaire. C'est pourquoi la première grâce de Bolsonaro a provoqué l'indignation des familles des victimes. Rio de Janeiro, Anvinia, France Inter.
On revient en France avec un bouleversement à venir l'an prochain dans l'éducation, la réforme des études de médecine, la terrible première année, année couperet, ainsi que le numerus clausus, la limitation du nombre d'étudiants. Bien tout cela sera bientôt terminé à la rentrée scolaire de septembre 2020. Les études de médecine actuelles seront remplacées par différentes filières, tellement différentes que les doyens d'université s'inquiètent d'une mise en place complexe et coûteuse. Daniel Messager.
C'est une transformation en profondeur de l'accès aux études de médecine. Désormais, il y aura soit un parcours spécifique, accès santé, le PASS, avec en plus une matière autre que la médecine qui permettra de poursuivre quand même ses études en cas d'échec. Soit une licence avec option accès santé, le LAS, qui autorisera aussi à tenter sa chance en médecine et qui couvre de nombreux domaines. Djilali Hanan, vice-doyen de la faculté Versailles-Saint-Quentin en Yvelines.
Dorénavant, les facultés des sciences politiques et juridiques, des sciences sociales et humaines, vont tous pouvoir contribuer à mettre en place des licences avec accès aux filières santé. Donc il y a un premier élément de complexité, c'est qu'on a multiplié le nombre d'acteurs à l'intérieur de l'université.
Autant de nouveaux programmes programme à mettre en place, de validation à établir avec les universités, et ça a un coût.
On propose en moyenne 1200 euros par étudiant. Si vous êtes dans une licence qui offre un accès aux filières santé, mais dont la pédagogie est totalement orientée sur du travail en petits groupes avec un encadrement extrêmement élevé, tout ça va aboutir à un coût qui sera bien plus proche de 3600 euros que de 1200 euros par étudiant.
Ces nouveaux parcours avec davantage d'opportunités demandent forcément plus de moyens, et c'est ce qui inquiète les responsables d'université, alors que dès le 22 janvier, les lycéens vont pouvoir commencer à formuler leurs vœux.
Daniel Messager, on termine avec ce projet inédit, un tour du monde sportif à 8 mois des Jeux Olympiques de Tokyo. C'est l'idée de l'ancien perchiste Romain Ménil, partir à la rencontre de sportifs du monde entier pour les faire parler des valeurs de l'olympisme. Demain, l'ancien médaillé partira de Bordeaux avec femmes et enfants, direction finale Tokyo en août prochain. Yves Maugue.
Romain Ménil va emmener sa famille dans 9 pays, du Pérou aux États-Unis, en passant par le Vietnam, le Népal ou la Jordanie. Il veut découvrir ce qui se cache vraiment derrière ce qu'on appelle les valeurs du sport et de l'olympisme, savoir ce qui fait courir les athlètes des différents pays au-delà des clichés habituels.
L'Américain, il arrive, on sait qu'il veut gagner, c'est son truc, il est là pour gagner, c'est l'Amérique gagnante. Le Français, il va aux Jeux Olympiques et puis il a entendu dans sa petite voix une phrase de Pierre de Coubertin qui a été déformée, qui dit « l'essentiel est de participer ». Donc bah, moi j'y vais pour apprendre. Voilà, donc, il y a deux clichés. Et donc on va voir ça aussi dans d'autres pays comment ça l'est.
Pourquoi fait-on du sport en Malaisie? Comment s'organise la pratique au Brésil? Pour le savoir, Romain Ménil s'est fixé quelques règles.
Dans chaque pays, on s'est donné un objectif, c'est de rencontrer à minima un athlète de haut niveau qui porte les valeurs de l'olympisme ou les valeurs du sport. On souhaite rencontrer une ONG qui œuvre par le sport pour voir comment le sport finalement est utile aux sociétés. Ensuite, on veut vivre dans une famille. Et ensuite, ce qui est très important, c'est qu'on va aller voir les écoles.
Au cours de ces 8 mois, la famille réalisera de nombreux reportages et travaillera avec les élèves des différents pays pour alimenter un réseau social scolaire dédié au sport.
Yves Mauque de France Bleu Gironde. Allez, un tout dernier mot, ce conte de Noël, un conte animal cruel et néanmoins cocasse qui va vous plaire. Ali, un loup vagabond est soupçonné d'avoir tué un kangourou domestique dans un jardin en Belgique. La morale, ou même les morales de cette histoire, c'est qu'il y a des loups en Belgique que l'on peut domestiquer les kangourous et que les loups aiment bien manger les kangourous. Trois informations quand même très inattendues, vous le reconnaîtrez.
Oui, pas de petit chaperon rouge. Merci Sébastien le génie.